Bienvenue sur le podcast Histoire de feu de camp, épisode
3. Bienvenue tout le monde.
Alors, quoi de neuf cette semaine?
On a un nouveau chien.
Un puppy!
D'où l'explication du retard un peu du troisième podcast.
En fait, on n'est pas en retard parce qu'officiellement, on vous l'a annoncé mercredi cette semaine.
Dans ma tête, on est en retard.
Ça fait une semaine et deux jours qu'on a un nouveau puppy. C'est un rescue dog, en fait. C'est un chiot de la même lignée que Rio, qui était adopté par une voisine du même éleveur que le nôtre. Et finalement, ça n'allait pas. Et on a décidé de l'adopter. Elle est ultra mignonne. Elle s'appelle Shelby.
Oui. Fait que vous allez, pas la voir. Parce qu'on... Faut
nous suivre sur YouTube pour la voir.
Exactement.
Fait que ça a été une semaine un petit peu chaotique. Sinon, quoi d'autre? Pas grand-chose.
On a un courriel, donc si les gens veulent nous envoyer des histoires, ils peuvent nous envoyer des histoires. Le courriel à histoire avec un S, feu, camp.
Feu, pas de S. Pas de X.
Donc, histoire S, feu, pas de X, camp, C-A-M-P, acommercial@gmail.com. Donc, si vous voulez nous envoyer vos histoires, ça va nous faire plaisir de lire.
Et on va les séparer en deux, parce que le but, c'est toujours qu'on se raconte des histoires en cachette, qu'on prépare en cachette et qu'on se raconte live, moi et chérie, au moment du podcast. Alors, quand on va recevoir des messages de vous, de vos histoires, vous pouvez marquer pour Manon ou pour Lionel si vous pensez que
c'est une bonne idée,
vous voulez choisir le lire et peut-être le choisir pour le podcast. Bon, ben, t'as-tu préparé les bûches? Est-ce que le bois est bien sec?
Le bois est bien sec. Attends, je vais juste allumer le feu. Allume le feu. Ah, yeah. On se réchauffe les papates, les mains. Oui.
Oh, c'est merveilleux.
On va prendre un petit snack.
Bon, ben, qu'est-ce que tu manges?
Cette semaine, je mange un party mix, l'original.
Party mix. Comme un party dans un sac. On n'a pas le droit de faire des parties, mais vous avez le droit de manger des party mix.
Oui, tout à fait. Et mes préférés là-dedans, c'est des Ringolos.
Mais pourquoi tu n'achètes pas alors des sacs juste de Ringolos?
Parce que je ne suis pas capable de manger un sac de Ringolos.
OK, fait qu'il faut...
Faut que ça soit dans un party mix.
La beauté, c'est que ça soit mélangé.
Fait que je fais juste manger des Ringolos puis je jette le reste. Non, c'est pas vrai. Je mange tout à grande poignée. J'adore ça.
Moi, je bois un Brookladdock. C'était mon cadeau, un scotch, un très bon scotch que chérie m'a donné à Noël. C'est le Isle. Tu te rappelles-tu dans le documentaire qu'on a vu comment il disait ça?
Isle. Ben, c'était pas évident parce qu'il parlait en écossais.
En anglais écossais, mais avec des accents. C'est un excellent documentaire sur Prime pour les abonnés Prime qui s'appelle Scotch. Et c'est de toute beauté. Ça m'a donné le goût de boire du scotch. Alors, je sipe ça, c'est un 2011. J'ai ajouté un peu d'eau, parce qu'on a appris dans ce documentaire-là que c'est totalement acceptable.
De mettre de l'eau dans son scotch.
Un peu d'eau dans son scotch, pour le faire durer tout le temps du feu de camp. Donc là, tirez-vous une bûche, ouvrez votre chaise pliante, sortez vos petites couvertures, amenez vos guimauves, vos collations. Êtes-vous prêt?
Ah, j'ai oublié. Tu voulais pas de glaçons dans ton scotch, hein, toi?
Ah non, pas de glaçons.
OK, je vais les enlever.
T'entends-tu les criquets?
Non.
Il n'y a pas de criquets? Fait pas assez chaud encore, hein?
Fait pas assez chaud. C'est l'hiver, Manon, là.
Ah, c'est vrai. Ah, j'ai hâte au soir et chaud avec des criquets. Bon, ben sur ce... OK, c'est moi
tu
qui commence comme d'habitude?
Oui, c'est okay. Toi qui commence comme d'habitude.
Alors là, ça va être un peu différent. C'est pas une histoire, mais bel et bien des histoires. Alors, j'espère que ça va vous faire peur un peu. Vous choisirez votre favorite. Puis peut-être que ça va vous faire réaliser que vous avez vécu des choses durant la pandémie que vous n'étiez pas capable d'expliquer. Alors, bon, depuis la pandémie, apparemment, les signalements de fantômes, phénomènes paranormaux et UFO ont explosé. Mm-hmm. Ça veut dire ça?
Bien, je comprends très bien l'explication. Je comprends pourquoi, en fait, parce que les gens, ils sont beaucoup plus attentifs. Là, ils sont là, là.
C'est une des explications.
Oui.
Effectivement, bon, premièrement, peut-être que vous étiez confinés seul, puis en fait, vous n'étiez pas tout à fait seul.
Jamais bon à savoir.
Les journées sont rythmées avec des réunions Zoom, des cours à domicile, mais aussi des voix désincarnées, des personnages sombres, des ombres dans des bureaux totalement éclairés, très bizarres, des appareils électroniques qui se comportent très bizarrement, des chats invisibles qui se reposent sur des canapés, des caresses, des mains qui ne sont même pas là dans certains cas. Donc, tu es assis sur le divan, tu sens une petite caresse sur ton épaule, tu te dis, bon, c'est soit que ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas été avec quelqu'un, ou il y a un fantôme. Et c'est cocasse parce qu'effectivement, il y a même eu un article dans le New York Times, le 14 mai 2020. Le New York Times, on s'entend que c'est quand même un journal assez sérieux. Quand le New York Times commence à rapporter des histoires de fantômes, c'est parce que
oui,
il y en a pas mal.
Oui.
On est d'accord?
Je suis très d'accord. Moi, là, je t'écoute, là. Moi, je suis sans commentaire. J'ai hâte de savoir ce qui se passe.
J'ai plusieurs histoires. Certaines proviennent du New York Times, certaines que j'ai trouvées dans d'autres de mes recherches, qui ont été rapportées. C'est pas des histoires, c'est des faits qui ont été rapportés durant la pandémie. Alors, premièrement, Adrian Gomez, 26 ans, travailleur en informatique de LA. Tu sais, d'habitude, les gens en informatique sont assez rationnels. Hein?
Ouais.
C'est des 0, des 1, puis des 2, je pense, 0, 1.
0, non, 1. C'est 0, 1, 0.
0, 1, 0, 1.
C'est binaire, oui.
Tu sais, c'est binaire. Donc, il n'y a pas de place pour des fantômes, en général, dans leur pensée. Et lui, il vit en appartement avec son conjoint. Et là, ben tout allait bien. Il profitait du confinement pour s'entraîner, faire des grandes marches dehors, cuisiner du pain de la petite bête. donc, tout allait super bien. Et là, à un moment donné, les deux étaient dans le salon à écouter une série comme on fait. Hein? On se les tape une après l'autre. Et là, la poignée de porte s'est mise à secouer tellement vigoureusement qu'ils l'ont entendue de l'autre bout de l'appartement où ils étaient. Puis ils ne comprenaient pas, si on dit qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer, ils ne comprenaient pas.
Donc, c'est la porte d'entrée, là.
La porte a secoué, oui, la porte d'entrée.
La poignée.
Okay. Ben de leur appartement.
OK.
Mais ils se sont dit, bon, coudonc, peut-être que... brushed it off, puis ils ne se sont pas posé la question. Mais là aussi, ils entendaient des pas en haut, mais il n'y a personne en haut.
C'est la piscine du bloc appartement, là.
Non, il n'y avait aucune,
personne.
Il y a aucune explication logique pourquoi ils entendent des pas en haut. Et ça, c'est arrivé fréquemment. Et là, un soir, il était dans le lit et le store de la fenêtre juste à côté du lit s'est mis à secouer tellement vigoureusement que Adrian a pensé qu'il y avait un tremblement de terre qui est assez fréquent.
Oui, en Californie. Oui.
En Californie, sauf qu'il n'y a rien d'autre qui bougeait dans la chambre. La fenêtre n'était pas ouverte. Donc, tout de suite, il a levé le store, la fenêtre n'était pas ouverte, il n'y avait pas d'oiseaux ou d'animal ou rien qui pouvait expliquer ça. Et la deuxième fenêtre de la chambre, elle, il n'y a rien qui se passait, c'était le calme plat. Le store ne bougeait pas.
Donc, deux
pas.
Fenêtres, une à côté de l'autre, il y en a un store qui bougeait.
Il y en a
bougeait,
un, le store.
L'autre faisait...
Il n'est pas juste bougé, là, pas juste comme...
non, comme... quelque chose le bougeait, oui.
Exactement. Et il a tellement eu peur, Adrian, qu'il a admis qu'il s'est carrément caché sous la couette, comme on voit les enfants faire après un film d'horreur ou pendant un film d'horreur, puis attendu que ça passe.
Pas juste les enfants, moi j'en ai ma chose. Moi je fais la même chose. Je regarde à travers ma main.
Alors ça, c'est l'histoire d'Adrian.
Donc ils n'ont jamais eu d'explication.
Mais les deux sont convaincus qu'il y a...
C'est un bloc appartement nouveau, c'est-tu quelque chose?
J'ai pas toutes ces informations.
Excuse-moi.
Mais... ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sont convaincus qu'ils sont en compagnie d'une troisième personne durant ce confinement. À New York, Patrick Hines, 42 ans, lui, pendant la pandémie, tu sais, on est plusieurs à avoir voulu le faire ou l'avoir fait. Ceux qui sont en ville sont sortis de la ville, se sont loués une maison.
Ouais.
Eux autres se sont loués un petit cottage full charmant sur Airbnb. Dans l'ouest du Massachusetts. Et ils se sont dit, on va-tu être bien? Ils ont loué ça pour 6 semaines avec leur fille. Et encore là, des gens totalement rationnels. Et une nuit, Patrick s'est réveillé à 3 heures du matin parce qu'il avait soif. Il est rentré dans la cuisine, puis il y avait un homme en genre d'uniforme de la Seconde Guerre mondiale assis à la table de cuisine, dans la cuisine. Puis quand il est rentré, ça semblait tellement comme naturel. Il l'a vu, puis c'est un peu plus qu'il disait « Ah, bonjour », tu sais. Puis là, il a réalisé qu'est-ce qui est en train de se passer. Il s'est reviré, puis...
Il était plus là.
Il était plus là. Il était en compagnie... je sais pas si c'était écrit dans dans le Airbnb. Oh! OK, ensuite. C'est pas fini. Danielle, une Canadienne, avocate de 39 ans de Colombie-Britannique.
Danielle.
Danielle, ouais, ou peut-être Danielle québécoise qui est devenue.
C'est tout à fait possible aussi.
Donc, elle vit seule et très bizarre. En fait, durant le confinement, ben, et probablement encore à ce jour, dans la chambre d'amis, il y a une petite lampe de chevet. Elle ne se rappelle pas le nombre de fois où elle a dû aller la fermer. Elle s'allume toute seule. C'est comme assez fréquent. Puis là, elle se disait au début, ben écoute, là, elle essaye, elle a changé de prise, là, mais rien n'y fait. Elle ferme la lampe, elle ferme la porte. Elle repasse quelques heures plus tard, il y a encore la lumière dans la chambre d'amis. Et, ben vous savez, dans cette période-ci, il y en a beaucoup qui ont développé leur talent de couture pour faire des masques.
Oui.
Donc, dans cette même pièce-là, elle avait sa machine à coudre.
Ah non, dis-moi pas que la machine à coudre est partie toute seule, là. Commence à faire des masques tout seul.
Ça serait cool, hein? Malheureusement, non. C'est pas ça l'histoire. Mais donc, elle avait presque fini sa batch de masques. Il restait deux morceaux de tissu. Elle s'est virée de bord. Puis quand elle s'est retournée, les morceaux de tissu ont disparu. Et elle jure qu'ils étaient là. C'est quelqu'un encore là de très rationnel. Donc voilà, Danielle n'était pas seule. Ensuite, il y a une dame qui a toujours été sensible au contact des morts, qui avoue qu'il y a tellement plus d'entités qui essaient de la contacter en ce moment qu'elle a du mal à dormir. Elle dit, avant la quarantaine...
C'est une médium?
Ouais.
OK.
Mais pas professionnellement, je crois pas, selon ce que j'ai lu, mais...
En fait, elle savait même pas qu'elle était médium.
Ben non, avant la quarantaine, il y avait déjà des entités qui rentraient en contact avec elle. Ça pouvait arriver... 5 à 6 entités différentes par semaine.
Jesus.
Puis elle dit, au pire de la quarantaine... C'est quand même dérangeant, tu sais. T'es en train de te concentrer sur ton appel conférence, puis t'es comme...
Arrête, là! Arrête de me parler, là!
Tu veux pas que je suis concentrée?
Ça battra pas le gars qui avait son skin de chat. L'avocat qui avait son skin de chat dans le Zoom. Excuse-moi, je déballe de l'histoire.
Ouais. J'avoue. I am not a cat.
I'm not a cat. Not a cat.
Et donc cette dame-là, qui donc a des pouvoirs de médium, au pire de la quarantaine, a dit que les chiffres ont doublé. Elle avait de la misère à dormir et avait même l'impression qu'il tendait la main, peut-être pour une raison inhabituelle, parce que pour les fantômes, c'est aussi une période difficile parce qu'ils se nourrissent de l'anxiété et de la peur généralisée, puis ils ont besoin d'aide. Voilà. Ensuite, l'histoire de Kirk. Ça, tu vas l'aimer. Kurt Schleicher.
Ah, je pensais aller dire Kurt Cobain.
Non, Kurt. J'ai allumé ma petite lampe de chevet.
Oui, ça fait un petit peu... Le feu est un petit peu battripant. Hein? Si vous ne savez pas, on a un vrai feu dans la pièce dans laquelle on fait nos podcasts. Et quand il n'y a pas de lumière, c'est un feu. Fait qu'on...
Je vais prendre une photo. je vais mettre ça sur nos...
C'est un petit peu battripant, en fait, quand tu le regardes. Et il fait chaud, en plus. Là. J'ai chaud.
Moi aussi, j'ai chaud.
Ça dégage de la chaleur.
OK, je le filme, puis je vais le mettre sur Instagram.
Ah, j'ai une petite chip, là.
En stories, la petite bête. Où en étais-je? OK. Kurt Schleicher, 56 ans, de Tampa, Florida, a décidé... encore un homme peut-être un peu trop rationnel, d'acheter la très connue ancienne demeure du tueur Victor Licata qui a assassiné ses parents, trois frères et sœurs et le chien.
En tout cas, j'ai pas de réponse à ça. Faut vouloir attirer du trouble quand hein? T'achètes une maison où est-ce qu'il y a eu des meurtres.
En 1933... ont eu lieu ces meurtres-là. Et lui, quand il a visité, il a dit « Je crois pas à ça, c'est un bon deal. » Yes, sir!
Il y a pas de bon deal en real estate, les amis. OK, juste un petit message comme ça. Il y en a pas.
Nous, ici, on n'a pas de fantômes. Ce qu'on a lu, c'est que quand tu achètes une maison, il faut visiter avec des enfants et un chien.
Ou des animaux, oui.
Et un ou l'autre. Et si l'enfant et le chien regardent le coin du mur encore pire, sont en conversation avec un mur.
Avec rien. Faut pas acheter.
Ouais. Ouais, mais dans le marché actuel, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps, je pense. Les gens qui essaient d'acheter des maisons ne peuvent pas mettre ça comme condition. En tout cas, bonne chance avec ça. Alors, toujours est-il que Kurt avait un super bon deal et n'y croyait aucunement. Et il se disait que c'était pas quelque chose de d'effrayant pour lui. Mais là, tout à coup, durant le confinement, il passait beaucoup, beaucoup de temps dans sa demeure. Et il s'est mis à passer toutes sortes de choses étranges et surnaturelles qu'il n'avait jamais remarquées avant. Par exemple, son chien, hein? On parlait des chiens. Son chien, un boxeur, est assis dans la chambre où la mère a été assassinée et aboie sans raison contre le mur. Hein? Donc, il faut le dire.
Ouais, ouais.
Dans la salle de bain, il est en train de se raser, puis il sent une sensation de froid, un genre de pinceau froid de quelque chose qui passe, un courant d'air froid, puis ça arrive fréquemment. Et depuis ce temps, il remet un petit peu en question sa position sur...
C'est exactement la situation du premier American Horror Stories, le Murder House. Là. Les gens sont pris avec une maison qu'ils ne sont plus capables de vendre.
Exactement. Mais bon, il continue à y vivre, mais il remet en question les choses qu'il ne croyait pas avant. Ensuite, une autre histoire. Brent Underwood, 32 ans, qui vit à Cerro Gordo, Californie, qui était apparemment un ancien village fantôme, a des colocataires indésirables. Moi aussi, j'ai déjà eu des colocataires indésirables.
J'allais dire, on a tous eu des colocataires. En fait, non, moi, j'ai toujours adoré les gens avec qui j'habitais.
Mais moi, j'en dirai pas plus. Alors, mais nous, au moins, on les voyait, tu sais. Quand notre pot de yogourt disparaissait du frigidaire, on savait que c'était un humain qui l'avait mangé.
En fait, on t'aurais peut-être préféré que ça soit des fantômes.
Peut-être.
De ne pas les voir.
Alors lui, au milieu de la nuit, a vu des livres volés hors de sa bibliothèque. Ouais. Et donc, il y a eu tellement de petits phénomènes qu'il a contacté un chasseur de fantômes. Et t'es bien assis, là? Ouais. Est-ce que tu vas l'aimer, celle-là? Le chasseur de fantômes a dit que ce serait l'acte d'une paire d'enfants fantômes qui vivent dans son garde-robe.
Oh, Jesus Christ!
C'est épouvantable. Il dit, le pauvre Brent dit, c'est particulièrement peurant en quarantaine car je n'ai personne avec moi pour me réconforter. Pauvre loulou, get a dog!
Ouais.
Mais sauf que le chien va japper devant le garde-robe. C'est effrayant de vivre ces expériences sans pouvoir les partager. Je sais que c'est ridicule, mais je dors avec un bâton de golf et la lumière du salon allumée.
Ça sert absolument à rien, mais oui, d'accord.
Quand même. Non, mais vous savez que les fantômes, en fait, ça tue pas. C'est moins dangereux qu'un humain, en général. Là. Donc, c'est peut-être ça qu'on peut lui dire.
Oh my God!
OK, encore. Madame Cohen, 26 ans, rapporte avoir un gentil fantôme qui la hante depuis l'université. Elle l'a même baptisé Matthew. Et depuis la pandémie, Matthew fait acte de présence en courant dans les escaliers dans sa maison ancestrale de Nashville. Donc, il entend tout, 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 en haut, en bas. Et, bon, on se dirait, si Madame Cohen était seule, qu'elle est probablement folle. Mais non, Madame Cohen est mariée à Will Cohen, qui est un comptable. On sait que les comptables, c'est assez rationnel aussi dans la vie. Là.
Oui.
Et lui, il a dit, c'est clairement pas des craquements de maison. Là. Il y a des bruits de quelqu'un qui court dans les escaliers.
Donc, gentil, par exemple.
Effectivement. Puis là, depuis la pandémie, Mme Cohen est infirmière, donc elle travaille doublement fort.
Oui,
et Will, pour pas la déranger, a commencé à utiliser la salle de bain de la chambre d'amis. Et ça fait trois fois qu'il prend sa douche, et pendant sa douche, l'eau devient complètement glaciale. Puis là, au début, il pensait que c'était un problème de plomberie, mais dès qu'il touche au robinet d'eau chaude, il est fermé. Donc, il
se fait jouer des tours.
Il se fait jouer des tours! Oh. Je pense que Matthew, il commence à trouver que Will est trop souvent à la maison.
Ça se peut.
Ben oui.
Il veut être avec...
Il veut être avec Mme Cohen pour lui tout seul. Oui, ça, très mignon. Enfin, j'ai beaucoup aimé le récit de Carrie et Alexandra qui partagent un vieil appartement dans Queens, New York. Donc, l'été dernier, au cœur de la pandémie, on avait l'impression que ça allait mieux. Aux États-Unis, ils ont appris leur leçon. Et donc, Carrie était dans le lit et sa femme est allée aux toilettes. La première chose qui est arrivée, c'est que Carrie, en pleine nuit, est allée aux toilettes et s'est retrouvée en compagnie d'une femme luminescente en uniforme de docteur. Quand il rentrait en salle de bain, il était face à ça. Il a allumé la lumière parce qu'il s'est dit « ça va pas bien ». Il n'était plus là. Ça n'avait été que ça, mais non, parce que en fait, une des choses qui semble arriver souvent pour eux en pandémie, c'est qu'ils ont une trop petite couverture pour leur lit, puis ils passaient leur temps à chicaner que c'est qui tirait sa couverture. Moi, je ne comprends pas ça du tout, clairement. Ça n'arrive pas dans un couple. Hein?
Pas du tout.
Ouais, hein? On a changé de duvet cette année. Parce que c'était
aussi... Ça arrive encore. Là. Cette nuit, j'étais à moitié déshabillée.
C'est impossible. Alors donc, ils se chicanaient et là, Alexandra était allée aux toilettes pendant la nuit et Carrie était dans le lit. Puis là, il a senti la couverture se placer sur ses pieds puis la remettre bien égale sur le lit. Puis là, après ça, il attendait qu'Alexandra rentre dans le lit. Puis là, elle n'était pas là, fait qu'il l'a appelée. Puis quand il a levé la tête, elle sortait de la salle de bain. Fait que c'est pas elle qui a replacé.
Il a été tucked in.
Oui.
Par un fantôme, un docteur.
Mais la façon qu'ils l'ont pris, justement, c'est que ce fantôme-là, c'était comme un geste affectueux de leur fantôme colocataire pour faciliter cette cohabitation en période forcée. J'ai trouvé ça très mignon.
Je sais pas comment je prendrais ces choses-là comme ça.
Quand même, hein? Je suis pas sûre, hein? Je suis pas sûre que je me rendormirais, moi. Sur le coup, je suis pas sûre que je dirais, es-tu fin, mon fantôme?
Oh! Oh! Casper! So nice!
Alors ça, c'est le résumé des histoires. On dit que, justement, avant, tu te rappelles le fameux Year 2K, puis l'an 2000...
Oui, je m'en souviens certain, oui.
Moi, je m'en souviens parce que je travaillais chez IBM. Alors, c'était le sujet de l'heure. On a vendu beaucoup de mainframe à cause du fameux désastre électronique qui allait être envisagé et beaucoup de services informatiques.
Qui n'est pas arrivé, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé en bout
de ligne. Mais dans cette période-là, il y a eu aussi une hausse marquée des signalements de fantômes, poltergeists et autres phénomènes paranormaux. Cela pour avoir affaire avec l'anxiété généralisée, les gens qui sont un peu hyper vigilants et qui fait qu'ils constatent, justement, peut-être plus de choses que normalement.
Ah oui, tout à fait.
Ça pourrait aussi avoir à faire dans le cas de la pandémie au fait que les gens se sentent seuls, puis en croyant ou en ayant un fantôme avec eux,
ils s'ouvrent plus aux possibilités que...
Ouais. Selon une enquête YouGov 2019, 45% des adultes américains croient aux fantômes.
C'est énorme.
Quand même, hein? En 2019, le Pew Research Center a constaté que 18% des Américains croient en avoir vu ou en avoir rencontré.
Combien 18?
18%!
C'est beaucoup.
C'est quand même beaucoup. Tout ça pour vous dire que si, durant la pandémie, vous avez eu un sentiment très net que quelque chose cohabitait avec vous alors que vous n'avez pas le droit de voir personne, on veut vos histoires.
Mais moi,
je trouve ça super intéressant.
Moi, j'aimerais ajouter à tes histoires... que nous-mêmes, ici, on a vécu, on n'a pas encore résolu le mystère dans notre maison. Nous, ici, on avait... Manon, au mois de novembre, a acheté, au Régie des alcools, elle a acheté 2 bouteilles de bourbon. Vous allez dire, c'est sûr, ils l'ont bu. Non, OK? C'est 2 bouteilles de bourbon, puis on est...
Un excellent bourbon qui
s'appelle... Deux excellents bourbon, oui. Kentucky, en tout cas, le capuchon, il y a un cheval dessus.
Ce qui fait qu'on s'est dit que si on l'avait fini, on aurait au moins gardé le capuchon parce que c'est trop mignon.
Et à ce jour, on avait 2 bouteilles. Il y en a une qui est encore là, que celle qu'on avait entamée. Et l'autre, on a cherché...
Le fantôme est en train de la boire.
Partout. On ne l'a jamais trouvée, cette bouteille. On n'a aucune idée où est-ce qu'elle est. Je pense que l'unique espoir qu'on a, c'est qu'on la retrouve sur le balcon fondu au printemps. C'est quand la neige va fondre, parce qu'on n'a aucune autre explication.
Mais ça serait pas logique.
Aucune. Et, c'est ça, c'est... Non, c'était trop une bouteille belle. Et le bouchon, on l'a regardé, on est encore...
Ouais. Donc, si on a un fantôme, il boit un excellent bourbon.
Ouais.
Il a un temps merveilleux, fait qu'il nous embête pas. Peut-être que ça valait la peine d'y payer une bonne bouteille.
En tout cas, j'espère que je trouverai pas la bouteille dans le grenier.
vide.
Oh my God.
Oh, j'avoue.
Je déménage. Sur Marc-Claude, on vous appelle. Les Remax, on déménage.
Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, pas vraiment.
C'est tout. Ben, des bonnes histoires, j'aime ça. Voilà, j'aime ça, oui. Des faits comme ça. C'est bien. C'est
et pour
plein
finir.
De... Oh, c'est pas fini encore?
C'est pas fini. J'ai une anecdote qui est encore. Non, mais ça, c'est pas épeurant. C'est ben.
Mon c'est soupir, épeurant. C'est pas un soupir de désespoir, c'est un soupir de.
C'est je épeurant peux... sur l'humain de d'oser faire des choses comme ça. Mais le village de Kepu, sur l'île de Java, a mis en place des patrouilles de Pokong, des fantômes qui incarnent, selon les croyances traditionnelles, les âmes des défunts. Alors, ils ont payé. Des gens, des enfants, etc., vêtus de blanc, des pieds à la tête, ils se promènent le soir avec la bénédiction de la police pour faire peur aux gens, pour contrôler les allées et venues. C'est quand même une belle... Ben oui, fait qu'au lieu de mettre un couvre-feu, ils ont mis des fantômes dans les rues, fait que là, les gens, ils ont super peur, ils barrent leurs portes, mais ils restent dans
le... C'est ce genre de sweatshop, ça, c'est quoi, le sort du pays, ces enfants-là?
Et en Inde et en Indonésie, on dit qu'il y aurait eu des cas où, pour punir les gens en quarantaine qui ne respectaient pas les règlements, ils les enfermaient dans des maisons abandonnées que l'on croit hantées.
Fait que mairesse Plante, Monsieur Legault,
oui, si
vous savez ce que vous avez à faire. Vous trouvez, il y a en masse d'endroits hantés au Québec. Vous mettez sur les récurrents qui appellent, là.
Ouais. Dans une maison
ceux
hantée
qui brisent
pour la
le
nuit.
Couvre-feu dans la maison hantée toute la nuit, je vous garantis qu'ils ne sortiront plus jamais de chez eux.
Et voilà. C'est, fait que c'était pas tant une histoire que des histoires, mais je trouvais que c'était le temps de la raconter.
Ben c'était très bien.
Merci.
Moi, la mienne sera pas aussi longue.
Tu mets-tu une bûche sur le feu?
Oui, attends.
Moi, je vais en profiter pour boire un peu de scotch. Mon Dieu, t'es-tu allé aux toilettes?
Non, la bûche était lourde. La bûche était lourde. Écoute. C'est beau, hein, la nature?
Ah, oh, c'est merveilleux.
Donc, moi, mon histoire... Excusez-moi si je fais bouger des feuilles. C'est pas tellement une histoire aussi. C'est drôle que les deux, on a décidé d'aller vers des faits au lieu d'histoire.
Mais c'est plus épeurant encore.
Oui, parce qu'en fait, moi, je constate que c'est vrai. Mm-hmm. N'oubliez pas, si vous voulez nous envoyer vos histoires, histoire avec un S, feu, pas de X, camp, C-A-M-P, acommercial@gmail.com pour vos histoires. Et vous pouvez les adresser à Manon ou Lionel si vous voulez que ce soit une de nos histoires.
Ouais. Ou nous baptiser par un autre nom, c'est correct.
Elle, oui, on cherche encore.
On ne sait pas comment s'appeler on air.
On air.
J'aime pas tellement le prénom Manon. Au Québec, ça a été assez... détruit. Puis Lionel, ben c'est comme, en fait, on fait des farces. Ça fait les gens qui ne nous connaissent pas pensent que c'est une coiffeuse qui sort avec un sugar daddy.
Avec un ouais, un Lionel.
Alors, si vous voulez nous rebaptiser, on prend les aucun suggestions. Problème.
Rebaptisez-nous. Donc, moi, je vais vous parler cette semaine. Bon, à Montréal, il y a McGill, et l'université, et donc l'université McGill. McGill, c'est, si je ne me trompe pas, c'est une des premières universités au Canada, donc une des plus vieilles. Mm. Il y a énormément de bâtisses, de buildings, de maisons qui appartiennent à McGill maintenant.
Oui, magnifique campus. Là. Magnifique.
Parce que le campus, en fait, s'étire quasiment sur toute l'île de Montréal. Il y a des buildings un peu partout. Là,
je pas juste ça, c'est en hauteur. Fait que c'est sur le haut du Mont-Royal. Oui. C'est une valeur de real estate incroyable.
Moi, je vais vous parler de... Le feu s'est éteint encore. Cette semaine, je vous parle de la maison Duggan. Okay. Qui est une des maisons McGill, une des plus vieilles maisons qui a été bâtie, en fait, sur le campus.
OK.
Cette maison-là, ben, en fait, il faut que je commence par une autre maison. Il faut que je commence avec Simon McTavish, que lui, c'est un des, je ne dirais pas un des fondateurs, mais en tout cas, une personne très importante dans dans l'histoire, mais aussi dans le développement de McGill.
OK.
Fait que McTavish, c'est un Écossais qui est arrivé à Montréal en 1775. Donc, en 1775, il était évidemment très riche. Il a rencontré une femme et, comme on dit, happy wife, happy life.
Il a bâti une belle maison.
Il a bâti un château.
Oh! Bon. Mais est-ce que c'est ça qu'on voit sur la rue Sherbrooke? Attends, je l'ai
non,
vu.
Non, tu ne le vois plus parce que c'est, ce château-là, est, je continue mon histoire, ce château-là, en fait, n'a jamais été complété. Non, il faut que tu le... est-ce que tu le vois? Non, mais en principe, ils l'ont peut-être reconstruit, il faut dire, mais pour mon histoire, ce n'est pas important si ils l'ont reconstruit
okay,
ou pas.
OK, okay. On
l'important, c'est que le monsieur qui a commencé à le construire, Simon McTavish, et voulait le compléter avant sa mort, ne l'a pas complété avant sa mort. Il est décédé. À un moment donné, il a pris froid parce qu'il ne voulait pas arrêter de travailler. Il a eu une rhume, pneumonie, name it, il est décédé. Et le château, la construction a arrêté et le château commençait à tomber en ruine.
Happy wife, happy life, widow, rich
ben, en
widow.
Fait, ben, c'est ça. Ben, la widow est repartie. Elle a rencontré quelqu'un puis elle est partie. Ça, c'est pour la première partie, parce que c'est important parce qu'ils ont utilisé pour construire la maison d'Hogan. Ils ont pris des pierres du château McTavish.
OK.
Et c'est une des raisons pour laquelle ils disent que la maison d'Hogan est hantée, c'est que les pierres qui provenaient d'un château d'où M. Simon McTavish était décédé étaient hantées. Donc, ils ont comme transféré les pierres hantées, si on veut, quand ils ont construit la maison.
As-tu bien choisi les pierres autour du feu de camp, tantôt?
Oui.
OK.
Oui, oui, c'était des pierres de rivière.
OK, parfait.
Très bien. Attends, le petit feu, on va le partir. La maison...
Duggan.
La maison Duggan, qui n'était pas initialement appelée maison Duggan parce qu'elle a été construite en 1861 par Orrin S. Wood. Et initialement, c'est un manoir. Ça s'appelait Bryhead. B-R-A-E-H-E-A-D. So, okay. Bryhead.
Ça sonne comme une bouteille de scotch.
Bryhead.
Bryhead.
Bryhead. Et donc, évidemment, de la construction à maintenant, il y a énormément de familles qui ont passé dans cette maison, parce qu'évidemment, Monsieur Wood en question, ça n'a pas été l'unique occupant. Il y a eu donc plusieurs familles. Il y a eu même aussi, ça a été une maison de convalescence pour des soldats de 1911 à 1929.
Oh, bon,
donc,
d'autres
on
fantômes.
Peut déjà imaginer qu'il y avait déjà en partant, non seulement les briques, mais il y a eu assez de gens décédés dans cette maison. La dernière famille qui a occupé la maison, c'est donc les Duggan, qui est George Herrick Duggan. Okay. Et M. Duggan, lui, ce qu'il a fait, c'est bon. Puis ça, c'est récent, là, on parle des années 40. Là. Vers la fin de sa vie, Duggan a dit qu'il donnait la maison à McGill, donc l'université qui était déjà commencée, évidemment, qu'il donnait cette maison à l'université. L'unique condition, c'était qu'il reste jusqu'à sa mort.
Donc, que lui reste. Puisse l'habiter.
Donc, en 1944, M. Duggan a dit, cette maison est à vous, mais j'ai le droit de rester dedans jusqu'à temps que je meure.
Okay.
Puis après ça, vous ferez ce que vous voulez avec. Là. Bon, ben, ça vous appartient. Et lui, il est mort en 1946. Donc, deux ans après. il ne parle pas de ses enfants, en fait. Donc, en fait, lui, il est resté là. Puis il est décédé en 1946. Fait que la maison appartient à McGill maintenant. Au début, la bâtisse était pour le département, je vais appeler ça de commerce, là, le commerce.
Ouais.
Bon,
business.
Business.
Ouais.
C'était donc les classes de business se donnaient là avec un autre bâtisse pas loin qui s'appelait la bâtisse Purvis et qui ça avait eu le nom de Arthur B. Purvis qui lui était un pilote de guerre qui est mort de son avion. Et qui disent que ça aussi, c'est une maison qui est hantée, donc qui n'est pas loin. Encore plus le fun, entre ces deux maisons, ouais. Il y a un tunnel en dessous.
Non!
Qui rejoint. Et ils avaient
il est encore
fait,
ouvert?
Oui, il est encore ouvert, ce tunnel. Et en fait, ces deux... donc, les deux maisons, ça appartenait au commerce.
Ouais.
Et ils avaient fait ce tunnel entre les deux maisons pour faciliter le va-et-vient des étudiants.
Oh my God, j'aime pas ça déjà.
Mais ça, c'est juste une petite chose là, pour la maison.
Ils n'ont rien vu dans le tunnel? Que moi, j'imagine déjà des histoires. Là.
Oui. Okay. Les étudiants ont entendu des pas. Il y en a qui disent qu'ils ont vu des spectres, des formes, des gens qui étaient là, qui ne devaient pas être là. Mais en fait, c'est un peu une explication. Ils disent que les fantômes, en fait, ils se promènent d'une maison à l'autre avec le tunnel. Bon. Revenons maintenant ou à la maison d'Hogan même. La maison d'Hogan, c'est une maison, un genre de manoir gothique qui est au sommet de McTavish, donc de la rue McTavish à ce moment-là.
Ah, oh, c'est pour ça que je connais le nom McTavish, c'est la rue.
Ben oui, c'est la rue McTavish qui avait pris le... Oui. Maintenant, c'est rendu à la faculté d'éducation. Depuis les années, c'est plus le Commerce qui l'a, c'est rendu à la faculté d'éducation. Et il y a eu des visites. Donc, il y a des gens dans la maison qui entendent... Ben, en fait, des gens, des étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui passent par là, qui entendent des pas, qui voient des choses dans les escaliers, qui entendent des bruits qu'ils ne devraient pas, et tout ça. Il y a une situation, un cas, où il y avait une étudiante qui avait une rencontre avec un professeur. On n'ira pas plus loin que ça. On ne sait pas de quoi ils allaient discuter. Mais le fait étant qu'ils se rencontraient dans le hall principal.
OK.
Elle était assise à une chaise, elle a mis sa sacoche, son sac d'école ou son sac à main à côté d'elle, par terre. Et le professeur en question était assis devant elle, dos aux escaliers.
Okay.
Un escalier en colimaçon.
Ouais.
Durant la conversation, la fille regarde dans les escaliers et en haut des marches, voit une femme apparaître là, qui commence à descendre tranquillement les marches. La femme paniquée commence à hurler. L'étudiante en question. Oui. Le professeur qui ne voyait pas ce qui se passait se retourne, voit rien. Il ne voit rien dans les escaliers. L'étudiante veut partir, donc elle arrive pour prendre son sac. Son sac à main n'est plus là.
Oh non!
Au même moment, c'est drôle que tu mentionnais tout à l'heure les stars qui bougent. Les stars commencent à, comme genre, si quelque chose avait été lancé dans les stars, commence à bouger, puis il y avait des gros bruits, là, puis...
Pas pour rien qu'on n'aime pas ça, les stores verticaux.
Là, les stores, oui. Hein? Fait que là...
Mettez des rideaux.
Fait que, évidemment, rendu à ce point-là, les deux sont déjà debout, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Ils vont à la fenêtre pour voir le store. La sacoche, excuse-moi si j'appelle ça une sacoche, mais le sac à main, je m'excuse. Le sac à main est dans les stores verticaux. Il a été lancé...
Oh my God!
Dans le... Donc, c'est ça qui a fait le bruit, ça qui a fracassé les stores. Donc, ça, c'est en fait, ça, c'est une des histoires qu'il y a dans la maison d'Hogan de bruit. Et, bon. Les explications, comme je dis, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui sont passés dans cette maison. Fait que, clairement, il y a eu des gens qui sont décédés, surtout aussi avec des soldats. Par contre, il y a pas de cas documenté de femmes, en fait, parce que les gens pensent que c'est d'Hogan. Le fantôme, parce que c'est le dernier qui est décédé là, mais il n'y a pas vraiment d'histoire de femme qui est là. La femme en question, ça aurait été un des occupants de la famille de la maison aurait été la famille de Matthew Hamilton Goh, qui était un politicien. Et lui, il avait une épouse, Joanna Elizabeth Bourne, et eux ont eu 16 enfants. Déjà, puis ça, on parle du 19e siècle à peu près.
16 enfants.
Okay? Des 16 enfants, évidemment, il y en a qui n'ont pas survécu, ou s'il y en avait qui survivaient, c'était... Ben, oui, il y en a qui ont survécu, mais...
Ils sont trop chicanés pour les couvertures, là.
Oui, ça, c'est vraiment... Ils sont vraiment chicanés. Il y en a eu plein qui sont décédés.
Ah! Okay?
Et...
Dont une femme?
Non, attends! Donc, cette femme en question qui a accouché de 16 enfants...
Ouais.
On dit qu'elle a perdu tellement que le...
De seins? Elle a perdu ses seins?
Ça, c'est clair qu'elle a perdu ses seins. Les enfants qu'elle a perdus, ils l'ont rendue folle.
Oh,
et
oui.
Elle est décédée en détresse dans cette maison aussi.
Abandonnée par son mari avec ses 16 enfants. Il devait travailler et fort, puis elle était... En plus, elle a perdu ses enfants.
Et ses seins. Et donc... L'explication de cette femme en haut des marches est l'explication probable que c'est cette femme en question, Mme Bourne, qui descendait et qui se promène dans la maison d'Hogan
à
chercher ses enfants décédés désespérément en criant.
C'est-tu sur les tournées de fantômes de Montréal?
Il y a, en fait, il paraît qu'il y a des tournées du campus McGill parce qu'il paraît qu'il y en a. Il y a plein de maisons.
Apparemment, les universités, c'est un lieu commun de
hantise.
Non, pas hantise.
de hantise, non? Non,
de phénomènes paranormaux, disons. Hantise, ça veut dire j'ai la hantise, j'aime pas ça. Je déteste.
Non? Ça vient des fantômes.
Ah, d'accord, oui, c'est vrai, j'aime pas ça. Ah, fait qu'on... Mais en tout cas, ça fait partie de... Je sais pas si on va avoir le guts de le faire, là, mais un jour, on aimerait ça faire des petites tournées de fantômes.
On en a fait.
On a fait ouais. New Orleans.
Puis on a fait un ghost tour aussi.
En 2000.
Bien, ça, c'était un tour de vampires. 98. Puis ça va être un sujet éventuel aussi, les vampires, mais...
Mais non, on parlait des fantômes aussi, tu te rappelles? Écoute, ça sera le sujet d'un spécial Nouvelle-Orléans, parce que ça nous
a... Non, on a fait un truc de fantôme à Hull.
Ottawa. Ouais.
Ottawa, oui, excuse-moi.
Ouais.
C'est Ottawa. Ça, c'est le fun aussi.
Mais donc ça, si on en long. Fait plus, on vous les raconte.
Juste pour les gens qui l'organisent, là. C'est un petit peu trop long, votre tournée à Ottawa. It was way too long.
Ouais, c'était long, hein. Ouais. En tout cas, les enfants vont réussir à dormir, fait que c'était pas si épeurant. Mais celle-là de Nouvelle-Orléans, à ce jour, nous marque encore. Ça fait plus de 20 ans, là.
Ah oui?
Je travaillais pour IBM, ça fait que c'est 98.
C'était foutument bien fait, là.
C'était fou, là.
C'était très fou.
Mais c'était la soirée. En fait, tout était macabre. C'était pas planifié, mais ce sera le sujet d'un autre épisode podcast. Il va falloir raconter ça, parce qu'à ce jour, ça me marque encore. J'ai hâte de retourner en Nouvelle-Orléans.
Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous... Oh,
la devinette à la con?
Oui, pour alléger...
Pour alléger.
Les frissons, les chairs de poule.
OK. Pourquoi les bossus sortent... Attends, là c'est la petite devinette à la con pour alléger, c'est
ça? Oui, pour alléger ça.
Pourquoi les bossus sortent-ils quand il y a de l'orage?
Je sais pas.
Parce que ça les foudroie. Trois. C'est pas gentil.
Ça les foudroie. Ah, je viens de pogner. Foudroie.
Bon, mais tu remets une bûche.
On lit d'un petit livre en passant, c'est pas des jokes. On les choisit au hasard dans le livre.
C'est un livre de Thomas Bisignani de l'édition First Editions. C'est français. On a acheté ça chez Renaud Bré. Voilà, vous avez toutes nos sources. Le petit livre de devinettes à la con, ça se vend 2,99 € ou 5,50 $ canadiens.
Avec cette belle annonce pour Renaud Bré. Donc, les cocos, on vous laisse là-dessus.
On met une bûche sur le feu de camp?
On met une bûche sur le feu de camp. On se prend un petit glaçon, des petits chips.
Juste les ringolos.
Juste les ringolos, le reste, ouais, on laisse.
Pour un refill.
On laisse au loup.
Ben, merci d'avoir été autour de notre feu de camp. On vous aime. Dormez bien.
On vous voit la prochaine fois. Bye.